penchons-nous sans plus attendre sur Bâtiment 5, deuxième film de Lajli, réalisateur du très césarisé Les Misérables, il y a 4 ans, et qui retrouve un matériau similaire en déplaçant sa caméra de Montfermeil à la ville fictive, cette fois-ci de Montvilliers, toujours en Seine-Saint-Denis néanmoins, et qui emprunte énormément à Montfermeil, hein, d'une façon générale. Montvilliers, dont le maire vient de mourir après avoir enclenché le détonateur qui détruisait une barre d'immeubles, lançant par là même un grand programme de rénovation foncière de la ville. Parce que son premier adjoint, Roger, c'est Steve Tiencheux, est mouillé dans les finances louches de ce projet immobilier, dont finances dont d'ailleurs on ne reparlera absolument pas, hein, et qu'il faut s'assurer que le parti, parti qui n'est jamais nommé, mais parti de droite, ne perde pas la ville. C'est un adjoint sans importance, Pierre, qui est joué par Alexis Mananti, qui était comme Steve Tiencheux déjà dans Les Misérables, qui se retrouve parachuté à ce poste. Il doit composer avec cette nouvelle vie qui bouleverse ses habitudes de pédiatre bourgeois aux idées conservatrices, tendance même bien réac. Il doit composer avec la pression mise par la députée Agnès, Jeanne Balibar, dans un petit rôle. Et puis il doit composer surtout avec une ville qui ne lui ressemble pas et dont il ne connaît pas les attentes. Il est en cela l'antithèse du personnage de Abby, joué par Antadio, qui est vraiment excellente pour le coup. Une jeune femme d'origine malienne qui a grandi dans le bâtiment 5 de la cité des Grands Bosquets et qui refuse de, je la cite, rester toujours en colère, et pour ce faire elle s'engage activement dans la vie locale en aidant des personnes défavorisées, notamment dans leurs galères administratives. Quand elle découvre que ce bâtiment où elle a grandi et où elle vit va être remplacé par des logements bien plus petits, bien moins pratiques pour accueillir des familles nombreuses, c'est le début d'un face-à-face entre la jeune femme et le maire. C'est l'escalade plus ou moins crédible sur une toile de fond terriblement tendue et alors que poignent les lueurs de l'incendie. Bon, eh ben, c'est pas très bien, hein, franchement. Pour moi, c'est une grosse déception après Les Misérables et ça semble donner raison à notre cher feu Michel Simon, pour qui ce qu'il y a de plus dur dans la carrière d'un cinéaste, c'est pas le premier film, c'est le deuxième. Pour le coup, c'est vraiment un film que j'ai trouvé sans nuance, assez borné dans ce qu'il propose, avec de belles saillies esthétiques et de mise en scène, mais qui peine à convaincre sur l'heure 40 qu'il dure. Nathan, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah écoute, encore une fois, je vais être assez d'accord avec toi, globalement sur tout ce que tu as dit. Je trouve que... Bah, c'est vrai que c'est évidemment tentant de le comparer au Misérable parce que bah, c'est un second film, il y a énormément de points communs, et puis parce que Lajli lui-même affirme qu'il s'agit du deuxième volet d'une trilogie, donc évidemment bah, on les compare, et c'est vrai que la comparaison bah, fait évidemment souffrir Bâtiment 5, parce que par rapport à l'énergie, à la, vraiment au nerf des Misérables, là, on se retrouve avec quelque chose d'assez... Enfin, moi, je me suis assez ennuyé, en fait, par moments. Il y a quelques séquences qui relèvent un peu le niveau, mais globalement, c'est très... Ça manque complètement de nuances, de subtilités, là où Les Misérables sortaient du lot. Enfin, c'était quelque chose de très novateur, très, très original, très précis, enfin, à énormément de points de vue. Là, au contraire, bah, d'un coup, il y a une espèce de classicisme... qui était complètement absent de son premier film, et ouais, une espèce de conformisme dans plein de scènes qui sont hyper convenues et attendues dans des films de ce genre. Enfin, les scènes où le personnage d'Alexis Mananti se fait remonter les bretelles par la députée, les scènes même les scènes de débat, les scènes de même de pseudo-émeutes, même si elles n'ont évidemment pas l'ampleur de celles des Misérables, mais elles n'ont même pas, enfin, elles n'ont pas non plus leur, ouais, leur énergie, leur rythme et leur urgence. Enfin, je trouve que c'est un film qui manque d'urgence, alors que c'est quand même le sujet. Et voilà.
Ouais, non, je suis assez d'accord. Et en fait, effectivement, moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'il est assez frustrant, en fait, ce film. Parce que, c'est-à-dire qu'il arrive à bâtir une espèce d'inquiétude, une tension généralisée. Et moi, je trouve pour le coup que alors, le film, il a vraiment un bon rythme. Il se passe, en fait, plein de choses. Mais pour aller où ? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, j'ai regardé ma montre parce que... Bah, enfin, fallait que je me dépêche à la sortie du cinéma, et j'étais surpris qu'on soit déjà à une heure de film, et en même temps rien n'avait eu lieu pour l'instant, c'est-à-dire qu'en soi le flux tendu était là, mais pourquoi faire, ça tournait un peu en rond, et en même temps ça perdait du son temps avec des détails auxquels il n'échappait pas, et des détails qui sont d'un banal assez terrible. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, par exemple, ouais, moi je suis le flic, je marche sur tes jouets parce que je suis méchant. Ouais. Et c'est vraiment ce gros plan sur les petites voitures que la grosse botte du CRS vient d'écraser. C'est-à-dire que, pour citer le Crous de Descartes, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. non, mais blague à part, c'est vrai que ouais, il faut faire gaffe un petit peu. Et en même temps, quand il fait gaffe à des détails, et il les montre comme n'étant pas des détails. Et comme et c'est souligné, c'est vraiment avec des très gros sabots. Je veux dire, même, ça se finit donc le jour de Noël, et ça finit, il réussit à rajouter de la neige alors qu'il neige plus en Île-de-France depuis des années maintenant. Enfin, c'est un tout petit détail, mais c'est assez significatif, quoi.
Ouais, et puis tout ce que tu dis là sur le fait qu'effectivement il se passe pas grand chose, et moi, même à 1h20 de film, je regarde ma montre et je me dis, mais il reste que 20 minutes alors que finalement il s'est pas passé grand chose, et ça conduit à un problème qui est pour moi vraiment un des gros, un des problèmes principaux du film, du point de vue de son scénario en tout cas, de son intrigue. C'est que même au niveau de la structure, en fait, il y a quelque chose de très similaire au Misérable, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas l'ambition d'une tension qui montrait jusqu'à un climax inéluctable, en fait, comme dans Les Misérables, où on avait ce plan final sur une fin ouverte où c'était complètement inévitable. Et ici, il y a la même intention d'une scène finale qui serait cette acmé de l'action et qui comme dans une espèce de tragédie, quoi, de tragédie grecque, où on a ce craquage final du personnage de Blaze qui serait fatidique et qui arriverait comme ça, comme de toute façon il n'y a pas d'autre issue, etc. Mais en fait ça ne marche pas du tout aussi bien que dans Les Misérables, parce qu'il n'y a pas du tout eu la même construction avant, la même tension qui mène à ce moment là et ça paraît beaucoup moins fatidique, ça arrive de manière beaucoup plus abrupte, et donc je trouve que de ce point de vue là le film échoue là où Les Misérables réussissaient brillamment, quoi. Et il y a plein d'autres tu parlais des détails, mais c'est vrai que je suis d'accord, il y a plein de tout petits moments comme ça, mais qui en fait sont des détails auxquels il faut prêter attention parce qu'ils révèlent le manque du film. Il y a par exemple, moi j'ai trouvé que, alors ça c'est parce que je suis très tatillon sur les acteurs, mais il y a énormément de second rôles qui sont vraiment catastrophiques.
Ah ouais, des fois ça c'est digne d'une série France 2.
Ouais, complètement. Et même dans les personnages principaux, alors Alexis Mananti est le seul qui je trouve est excellent de bout en bout. Et en tout cas et il est assez juste, quoi. Mais l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui joue Roger Roche,
Steve Tienchu,
c'est ça, il y a des moments où il est très bon, globalement dans le film il est très bon, mais il y a quelques moments, notamment dans la scène de son face à face avec le personnage d'Abby, lui il joue l'intimidation comme le docteur d'enfer dans Austin Powers, et elle elle joue le mépris comme Paola Locatelli dans Les Liaisons Dangereuses version Netflix. Enfin, c'est vraiment, il y a des moments comme ça où ça marche pas du tout, et je pense que c'est pas qu'ils sont mauvais, parce qu'il y a d'autres moments dans le film où ils sont juste excellents.
Ouais.
Je pense que c'est parce que cette scène-là en particulier, et comme d'autres, est complètement desservie par les dialogues, parce que les dialogues sont quand même d'une lourdeur assez dingue. Il y a quand même des moments où le maire est dans sa voiture et où il parle de l'équipe de France, et il dit, quand même l'équipe de France depuis que Benzema est plus là, t'as vu comme ils sont libérés et tout.
Ouais, mais c'est ça, quoi.
C'est un truc de fou. Ou Roger Roche qui est là a cité carrément mot pour mot Chirac en disant on peut pas accueillir toute la misère du monde. Enfin, vraiment, il y a un moment où il faut un peu étoffer ces dialogues, quoi, je trouve.
Ouais, c'est ça.
Et j'ai pas parlé de Jeanne Balibar parce qu'elle a deux scènes, mais dans ces deux scènes, on a l'impression qu'elle en a rien à faire d'être là. Enfin,
tu sens qu'elle est là pour son pote à la limite.
Ouais,
et elle cache même pas, quoi. Je pense qu'elle rend service.
Ouais, exactement. Et qu'elle rend service, et puis qu'elle est là parce qu'elle était là dans Les Misérables, et que du coup, faut donner cette espèce d'unité, peut-être, je sais pas. Parce qu'en tout cas, il y a cette impression qu'on reprend un peu tous les ingrédients de la formule des Misérables, ce qui est cohérent puisque c'est une trilogie, donc en vrai, pourquoi pas. J'ai revu, rien à voir, mais Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2 ce week-end, et pour le coup, ils reprennent exactement les mêmes ingrédients, et bon, ça marche bien. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout avec la même réussite, quoi. Bon, faut dire qu'il avait mis la barre très haut, mais...
Ouais, c'est sûr. Mais, c'est ça, je te rejoins aussi là, sur le problème des personnages, en fait, parce que au-delà du jeu, je trouve qu'il y a un gros problème de caractérisation. Enfin, par exemple, si on prend un exemple de dialogue qui est assez pauvre d'ailleurs, à un moment il y a Roger qui dit il est vraiment con ce maire, c'est incroyable, juste comme ça, un peu out of nowhere, et c'est vrai en fait. En effet, t'as l'impression que le seul trait de caractère du personnage de Pierre, enfin d'Alexis Mananti, c'est qu'en tant que personnage, il est con, il est là, tout peureux, il dit tout le temps où j'appelle la police, etc. Mais après, moi, je trouve que dans l'ensemble, le trio tête est assez convaincant, surtout aussi par contraste avec les seconds rôles qui sont vraiment pas très, enfin, qui ne le sont pas convaincants, voire pas bons par moment. Hein. Mais et puis Alexis Mananti, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a aussi, parce que quand même son rôle, enfin, je veux dire évidemment que c'est pas le bon rôle du film, mais je veux dire il est même pas bien fait, etc. Et c'est assez dommage parce que je trouve que il y a un des points intéressants du film, c'est le travail de caractérisation du bâtiment 5 comme lieu et de filmer le bâtiment 5 comme un lieu et comme un personnage à part entière, en fait, quasiment, avec de très beaux plans. Mais alors, à nouveau, là, je trouve que autant Les Misérables arrivaient assez bien à montrer la part esthétique qu'on pouvait trouver à filmer ces grands ensembles, autant ici, je trouve qu'ils versent uniquement dans l'esthétisation, uniquement. Même si bon, effectivement, c'est un parti pris en soi de filmer la beauté possible de ce lieu, mais il faut quand même un peu aller au-delà, je trouve. Et puis, mais ça aide aussi effectivement un peu à caractériser le bâtiment 5 comme un personnage, et mieux que les personnages eux-mêmes, en fait.
Ouais, et sur ces problèmes de caractérisation des personnages, pour moi, le plus flagrant, c'est bon, alors ils sont tous très enfin, c'est vraiment des personnages types, à peu près tous, quoi. Mais il y en a un où vraiment, enfin, c'est assez décevant, c'est celui de Roger Roche, parce qu'il pourrait quand même avoir une trajectoire hyper intéressante. Enfin, lui, il habite, quasiment parmi les habitants du bâtiment 5. Il les croise hyper régulièrement, il vient de ce quartier, et maintenant, il travaille, entre guillemets, avec les méchants. Enfin, en tout cas, c'est l'adjoint d'Alexis Mananti, quoi. Et en fait, c'est jamais vraiment traité. Enfin, il y a juste, il panique à quelques moments parce qu'il a peur que ça lui retombe dessus et que les habitants lui en veuillent à lui parce que justement, ça serait un traître. Il y a dans la scène finale le personnage de Blas qui lui dit 2-3 fois traître, traître, traître. Mais ça va pas plus loin que ça, alors que ça pourrait être hyper intéressant à traiter, cette trajectoire de social traître. Et en fait, non. Ça tombe à plat. Et puis, et je te rejoins aussi sur le côté, la caractérisation du bâtiment 5. Elle est assez réussie. Elle donne lieu à, pour moi, la meilleure scène du film, qui est celle où il déloge les habitants du bâtiment. Ouais. Cette scène-là, elle est plutôt réussie. Mais là où il y a où j'ai eu un petit peu de mal, c'est que je trouve que finalement le bâtiment 5, qui est le titre du film, est pas si central que ça, jusqu'à ce moment-là en tout cas. Enfin, ça allait au début du film parce que le projet de reconstruction est central, mais après ça s'éparpille un peu, et puis comme il se passe plus grand chose, on n'en parle plus vraiment, et puis ça revient à ce moment-là quand de fait ils sont exclus du bâtiment, et là pour le coup il y a effectivement une jolie scène avec même des plans assez touchants sur des habitants. Il y a notamment le plan sur le petit garçon qui rapporte son doudou à sa sœur qu'il avait perdu, et son père était en train de le gueuler parce qu'elle pleurait pour ça. C'est assez mignon, et il y a des images comme ça qui sont plutôt jolies, mais elles sont vides, c'est seulement esquissé. Et je trouve que là où on aurait pu avoir vraiment une espèce de galaxie de personnages dans l'enceinte du bâtiment, on n'en voit que quelques-uns qui sont seulement esquissés. Et par exemple, dans cette scène-là, on se concentre surtout sur les personnages principaux, on revient très vite sur eux, alors que y avait ces quelques plans émouvants, mais c'est des personnages qui sont... c'est même pas des personnages secondaires, c'est là, en l'occurrence, des silhouettes, et ils sont très vite délaissés pour revenir à l'intrigue centrale, avec des gros guillemets, parce que de fait, comme on l'a dit, ces personnages sont pas hyper profonds et intéressants, et c'est dommage du coup, parce que quand on revient sur eux, on se dit c'est dommage, en fait. C'est dommage.
Oui, c'est ça. Et en plus, après, moi, je veux dire, dans le propos même du film, je trouve que en dépit de ce qu'on pourrait, croire ou ce à quoi on pourrait s'attendre, il dégouline vraiment de bons sentiments, mine de rien.
Je suis d'accord.
Et je trouve que c'est assez dommage, parce que c'est-à-dire qu'on en vient à se demander où est Jean-Pierre Darroussin pour dire aux gens que non, c'est mieux qu'il soit pas là quand même, et on attend à ce que Abby fonde une chorale, quoi, parce que je veux dire, au-delà de ça, le parallèle entre La Fête Continue et celui-là et ce film-là, Bâtiment 5, peut être mené, parce que ce sont deux films qui sont sur le papier plus que bienvenus, si on regarde juste leur pitch, mais en fait, ils dégoulinent un petit peu de bons sentiments, de bonnes intentions, et l'enfer du cinéma en est pavé. Parce que là, c'est franchement d'une naïveté manichéenne assez enfin, pire que celle de la fête continue, quoi, parce qu'on a l'opposition claire de deux camps, le bien, le mal, le bâtiment 5, la mairie, et effectivement des personnages qui peuvent amener un peu de nuance, comme ben, le personnage de Roger Roche, comme tu le disais, ne sont pas du tout exploités, ou alors très très peu dans leur côté précisément ambivalence, un pied dans les deux mondes. Et c'est d'autant plus dommage qu'à mon sens, ce qui est le plus réussi dans le film est ce qui est le moins consensuel et le moins lisse. On a un plan assez réussi d'ailleurs de Manenti en Jack Torrance de Shining au-dessus de sa maquette, comme Jack Torrance au-dessus du labyrinthe. Donc là, au-dessus de lui, c'est au-dessus de sa maquette des Grands Bosquets. On a une scène assez cauchemardesque et vraiment réussie d'un incendie à un moment, que je trouve avec une véritable inquiétude où, comme dans Les Misérables, on voit quand même que la cage d'escalier, c'est le poumon d'un immeuble. Hein, mais ça, le tome 3 des Bidochons nous le disait déjà. Mais en tout cas, bref, qu'ici, c'est de là, en tout cas, que viendra l'embrasement, littéral ou non. Et puis, on a... alors, pour le coup, moi, le final, si tu le prends juste en tant que scène, hors de tout le reste du film et du fait que ça vienne de toute façon complètement abrupte, il est spectaculaire de violence. Moi, j'étais... j'ai trouvé ça vraiment très bien, et ça a ravivé mon attention et mon intérêt, qui était en chute libre quand même depuis une vingtaine de minutes. Parce qu'on s'y attend absolument pas. Ça charrie toutes ces représentations, à la fois au cinéma et au théâtre, de la famille bourgeoise tout à coup perturbée par un intrus d'une classe inférieure, en fait, hein, à leurs yeux. Et je trouve que c'est vraiment très bien de tension, carrément surprenant, tellement tout le début dégouliné de ces bons sentiments. Et puis... il y a cette résolution hyper décevante, c'est-à-dire que quand même Les Misérables s'ouvrait sur, enfin voilà, se concluait sur cette fin ouverte, et là bon bah ça revient en câlin et c'est réglé,
ouais,
quoi.
Bah ouais, complètement.
Et ça refinit par dégouliner de bons sentiments, et c'est ça saoule, enfin c'est dommage, quoi, c'est vraiment frustrant, parce que là la scène elle était vraiment prenante, et puis le climax est immédiatement redégonflé.
C'est vrai que la scène en tant que telle fonctionne bien. Enfin, elle est bien fichue, quoi. C'est vrai que c'est très violent. Moi aussi, ça m'a réveillé, quoi. Mais je trouve ça limite dommage, en fait, qu'elle sorte à ce point de nulle part, qu'on s'y attende à ce point. Enfin, aussi peu.
Elle aurait pu faire un court métrage, en fait. Elle était autosuffisante, quasiment.
Complètement. Alors que là, encore une fois. Enfin, mais après, peut-être que je me trompe complètement et que c'était pas du tout l'idée de faire une montée comme ça en mode tragédie tragique, en mode tragédie grecque jusqu'à ce final-là, comme c'était le cas dans Les Misérables. Mais en tout cas, c'est ce que ça donne l'impression de viser. Et du coup, je trouve ça raté, quoi. Et d'autant plus avec le fait que ça se résolve comme ça dans, finalement, il recule parce que Abby vient le voir et le prend dans ses bras. Bon, c'est un peu dommage. Et puis en plus, après ça, une fois qu'ils sont partis, il y a un plan sur le personnage d'Alexis Manenti qui est pensif, qui a le regard dans le vide, et on se dit peut-être que finalement tout ça le fait réfléchir, et ça l'a fait réaliser que ce qu'il faisait n'était pas bien. C'est ça, et t'es en mode en vrai non, enfin c'est pas du tout réaliste, quoi. Enfin, malheureusement si ça arrive dans la vraie vie, ça ne fait je pense que asseoir encore un peu plus les idées des personnes concernées. En l'occurrence, je vois mal le personnage d'Alexis Manenti, vu le développement et la caractérisation qu'il a depuis le début, se dire, parce qu'il vient de se faire agresser par un habitant du bâtiment, se dire peut-être que j'aurais dû faire tout ça autrement. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et c'est un problème du film, je pense, de finir en tout cas sa trajectoire à lui sur cette image-là et là-dessus.
Effectivement, c'est assez dommage aussi d'ailleurs, parce que la trajectoire de Alexis Manenti, elle est de Pierre là, du maire, elle est presque caricaturale aussi, hein, dans un sens, parce que ça devient tout à coup le gars c'est l'histoire d'un mec, quoi, en gros, qui tout à coup est nommé maire, et puis d'un coup on se rend compte qu'il a tout un potentiel fasciste, fascisant en lui.
C'est fou. D'un coup il devient cette figure autoritaire.
Exactement, qui sort de nulle part. Et d'ailleurs, il y a dans les bonnes idées du film, dans les points intéressants, il y a la mobilisation de cette espèce d'imagerie du cinéma fascisant, on va dire, lors d'un affrontement, d'une mise en rang de CRS, on va dire, dans ce sens-là. Pareil, rien n'en est fait. Et c'est dommage parce que c'est à nouveau sur des tout petits détails qu'on sent le potentiel de ce qu'aurait pu être ce film. Et puis un autre exemple assez, enfin qui sans importance pour le coup, mais assez significatif du film, qui est, enfin du fait que ce film aurait pu être un très bon film sur notre modernité en soi, parce que par exemple au tout début à l'hôpital, Pierre est en arrière-plan, le focus de la caméra est sur lui, mais il est encadré au premier plan par deux portes vitrées sur lesquelles on distingue nettement, même si c'est flou, une affiche avec donc sur la porte de gauche le triangle rouge du plan Vigipirate et sur l'autre une injonction à mettre du gel et à porter le masque, ce qui je trouve est un bon résumé de l'époque en fait, hein, tout simplement, et qui est voilà des tout petits détails mais qui montrent qu'il connaît quand même notre époque, notre modernité, et il pourrait la filmer vraiment. Et puis finalement, c'est des détails qui se perdent au milieu d'autres trucs. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Je veux dire, à un moment, il y a Jeanne Balibar, une de ses seules répliques, c'est pour lui dire oui, si on a l'écharpe de tricolore de ce côté-là, c'est parce que, avec le rouge du côté du cœur, c'est parce qu'on a fait couler le sang du roi. Mais ça ressemble plus à un fun fact sur Insta
complètement.
Le saviez-vous que ça n'a aucune utilité scénaristique.
Ça pop-up comme ça, vraiment comme un fun fact. C'est-à-dire que avant, on est dans le bâtiment, on a cette scène-là qui dure 30 secondes, elle dit juste ça, et puis on revient dans le bâtiment.
Oui, c'est ça.
C'est hyper bizarre.
Toute la story line avec la députée, avec les magouilles bizarres, disparaît entièrement. Alors je sais pas s'il y a une version director's cut
de 4h30 qui va sortir sur Apple TV.
mais en tout cas, peut-être que ça, c'est... parce que là c'est pas du tout exploité quoi. C'est-à-dire que c'est quand même le prétexte qui fait que Pierre devient maire. C'est parce que lui, il est propre par rapport, enfin il a les mains propres pardon par rapport au reste du conseil municipal. Mais après, une fois que ça a justifié le fait que le personnage devienne maire, on n'en fait rien, quoi.
Ouais, moi, ça m'a fait beaucoup penser forcément à un film qui était sorti il y a quelques... il y a peut-être 2-3 ans, mm-hmm. comme ça, et qui était, je crois, un premier film aussi, qui était Gagarine, et qui était... j'y ai pensé parce que c'était aussi centré sur un bâtiment qui allait être détruit, un bâtiment dans une cité qui allait être détruit, et dans la cité Gagarine, et qui était... tout ce que ce film n'est pas, quoi. C'est-à-dire que c'était hyper subtil. Alors c'était évidemment, c'était pas le même traitement, hein. Là il y a au moins une ambition de traitement réaliste, alors que Gagarine c'était hyper poétique comme traitement, mais même d'un point de vue de l'écriture, quoi, même si on prend en compte les différences évidentes entre les deux films, c'était beaucoup plus réussi que celui-ci. Enfin, je veux dire, pour le coup je disais que le bâtiment 5 était trop délaissé, pas assez représenté, illustré, filmé globalement dans ce film-là. C'est pas du tout le cas dans Gagarine. Il est vraiment, tu disais que là, il était caractérisé comme un personnage. Dans Gagarine, il est le personnage, quoi. Il est de tous les plans. On n'en sort quasiment pas. Ou alors, quand on en sort, c'est pour avoir des plans sur lui qui volent dans le ciel. Enfin, c'est magnifique. Et c'est beaucoup plus. Enfin, pour le coup, on a. C'est marrant, je parlais de galaxie tout à l'heure. J'ai même pas fait exprès quand je disais la galaxie du bâtiment. Dans Gagarine, il y a cette galaxie qui est hyper bien exploité. Et je voulais juste le citer pour le conseiller et pour montrer un peu ce contraste, quoi, et de tout ce que ce film aurait pu être s'il avait été abouti, et qu'il n'est pas complètement, je trouve.
Ouais. Voilà. Mais je ne l'avais pas vu, mais en tout cas, tu me donnes vraiment envie de le voir. Si je voulais juste retenir quand même d'être un point à garder du film, moi je trouve que c'est, outre la scène finale, mais qui pourrait se tenir en un court-métrage en soi, c'est la première scène. Je trouve qu'elle est assez... moi, je l'ai trouvée assez magistrale. D'abord un zoom intense et de plus en plus inquiétant sur ce bâtiment 5 de la Cité des Grands Bosquets. Puis après, on est dans l'appartement de Abby où on ouvre le film par finalement cette ritualité la plus archaïque et la plus universelle qui soit, c'était celle du deuil, puisque c'est, enfin, on ouvre sur la mort de la grand-mère d'Abby et après, il y a une scène assez longue, mais assez réussie, même très réussie, où on essaie de descendre le cercueil dans les escaliers, puisque l'ascenseur est en panne depuis des années, et qu'ils habitent assez haut dans l'immeuble. Et je trouve qu'il y a vraiment un jeu sur des chromatismes assez réussi, une espèce de contraste entre les couleurs chaudes de l'appartement, le bleu froid de l'immeuble, ça fait presque un peu des mêmes descentes aux enfers. C'est pour le coup assez réussi, c'était assez prometteur pour le reste du film, mais bon, qui n'a pas tenu les promesses qu'il me faisait.
Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que quand le film commençait, j'étais assez optimiste aussi grâce à cette scène. Qui apparaît presque comme une métaphore de tout le film, quoi. Enfin, qui en tout cas campe vraiment bien ses enjeux, je trouve. Et pour le coup, c'est, enfin, en une scène là, il y a un personnage qui est introduit, le personnage principal d'Abby, le lieu qui est hyper pour le coup de manière très judicieuse filmé, le bâtiment, et puis toute cette connotation funèbre, funéraire même, qui est peut-être pas hyper subtil. Je me suis dit quand même, moi au bout d'un moment, je me disais que la scène durait longtemps et que c'était peut-être un peu lourd, ouais. Mais en même temps, l'idée de départ en tout cas est assez réussie et représente bien tout le film. Il y a cette réplique de la mère d'Abby qui dit comment peut-on vivre et mourir dans un endroit pareil? Et voilà, ça introduit assez de manière assez réussie le reste du film qui, malheureusement, encore une fois, tient pas forcément toutes les promesses de son introduction, quoi.
Bah merci. Voilà, c'était Bâtiment 5 de Ladjli, et rassurez-vous, on peut le comprendre même sans avoir vu les 4 premiers. Non. non, blague à part.
C'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là.
blague à part, il devait s'appeler Les Indésirables d'ailleurs au départ, et je trouve que c'est quand même un meilleur titre.
Ah ouais, carrément.
Qui faisait le lien en plus avec la trilogie, et puis ce qui est un peu plus frappant. Et c'est toujours en salle pour un bon film de Noël au cas où. Conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils, et d'abord celui de Nathan.
Oui, alors moi je voulais conseiller Brooklyn Nine-Nine, la série, non pas parce qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, non, j'en suis un aficionado depuis des années, mais tout simplement parce que la semaine dernière est survenue l'annonce très inattendue et très tragique de la mort d'André Brower, l'interprète du Capitaine Holt, à seulement 61 ans, lui qui campe dans cette série l'un des meilleurs personnages secondaires de sitcom, et dans ce qui est sans doute l'une des sitcoms les plus marquantes de la dernière décennie. Et donc, après Matthew Perry, il y a quelques semaines, la télévision américaine perd une deuxième figure marquante, et c'est l'occasion, donc, je pense, de se replonger dans le quotidien du 99e precinct de New York, avec un Adam Samberg au sommet de son art, made in SNL, et avec les créateurs de The Office aux commandes. Et puis plus largement, je voulais aussi conseiller, puisqu'on parle de sitcom, et pour rester dans l'ambiance de Noël, au lieu de vous conseiller plus classiquement un film de Noël, puisque c'est la saison, eh bien, peut-être que les meilleurs films de Noël, ce sont ces épisodes des sitcoms. Alors je vous conseille de vous faire une petite playlist d'épisodes de Noël qui sont un topos, voire un poncif incontournable des sitcoms, mais qui font toujours un bien fou et tiennent chaud en cette période hivernale. Conseil qui vaut donc pour toutes vos sitcoms de prédilection, de Friends à How I Met Your Mother, ou donc Brooklyn Nine-Nine. Voilà. Et puis oui, également, je voulais dire juste, j'ai réfléchi à ta question de tout à l'heure sur un film que j'attendais en 2024. Et il y en a deux qui me sont venus à l'esprit là. Il y en a sûrement plein d'autres. Mais je voulais penser à Dali, le prochain film de Quentin Dupieux, qui me donne très envie. Et puis, j'espère que ça sera sur...
Il y a tout programme.
Yes, génial. J'espère que ça sera dans la lignée de Yannick. Et puis l'autre, c'est un film qui, je crois, est déjà sorti aux États-Unis et qui va vraiment pas tarder en France, peut-être même avant la fin de l'année, en fait. C'est Poor Things de Yorgos Lanthimos.
Dans le courant janvier, je crois.
Ouais, bah, ça doit être ça. Et bah, j'avais vraiment adoré The Lobster. J'avais pas vu La Favorite, mais j'ai extrêmement hâte de voir ce film parce que la bande-annonce a l'air complètement délirante.
J'ai vu ça.
Ça a l'air incroyable. Voilà.
Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai réfléchi aussi parce que j'ai posé la question tout à l'heure sans trop y réfléchir. Je pense que je dirais quand même The Zone of Interest. Le film qui a eu le Grand Prix à Cannes, il me semble, le film de Jonathan Glazer sur la vie quotidienne du commandant d'Auschwitz. Rudolf Hess, et puis enfin, il y a Sandra Hüller dedans notamment, qu'on avait vu dans Anatomie d'une chute récemment. Et mon conseil à moi, outre effectivement de revoir les épisodes de Noël de vos séries préférées et l'épisode de Noël de Star Wars, regardez ça. Enfin, si vous voulez détester cette saga, ou alors regardez-la au second degré. Regardez l'épisode du Joueur du Grenier dessus, c'est bien aussi. Mais non, mon conseil à moi, à quelques jours de Noël maintenant, c'est quelque chose que vous pouvez demander à vous faire offrir auprès d'une tante, d'un oncle, d'une marraine, d'un parrain qui vous demanderait qu'est-ce qu'il faut que je t'offre. Le coffret collector pour les 20 ans de l'excellent label Écoutez le cinéma. Voilà, c'était mon conseil sur l'épisode maudit d'une année difficile, et je le redonne aujourd'hui. C'est un coffret qui a été édité il y a 3 ans. Ce sont 2 CD et 1 livret pour accompagner l'écoute, avec des interviews, des commentaires de tous les grands noms du cinéma, notamment français, Claude Sautet, Ennio Morricone, Tavernier, Henri Verneuil, etc. Sur ces deux CD, les thèmes de très nombreux films, qu'ils soient connus comme L'Homme de Rio, À bout de souffle ou Rosemary's Baby, ou qu'ils ne soient pas ou moins connus comme La métamorphose des cloportes, Mélodie en sous-sol ou Dernier domicile connu qui offre d'ailleurs son générique et toutes ses transitions au comptoir du cinéma. Toutes ces BO sont extraites de CD édités et réédités par Écouter le cinéma, dont je vous conseille plus globalement tout le catalogue. Voilà, ils sont toujours super bien, c'est des CD qui sont toujours super bien et intelligemment faits. Ils sont pas tous ou pas toujours disponibles sur les plateformes, donc c'est un conseil d'amateur de support physique, mais j'y tenais. Très franchement, ça fait aussi une super liste d'envie sans critique en termes de films à découvrir. Voilà, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à toi Nathan pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve en janvier pour la première émission de 2024 avec Kore-eda ou Sofia Coppola, je ne sais pas encore. Et rien n'aura changé, elle sera comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre à la rentrée, ben surtout n'hésitez pas à en faire votre bonne résolution. D'ici là, bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances, bon Noël, bon an, réveillon, bonne année, bonne fête à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.